Un air d'actu avec Serge Carrel.
Il est pasteur dans l'église méthodiste de Metz. Il a été pendant plus de 20 ans aumônier protestant dans plusieurs prisons de France. Christophe Alling est l'invité d'un air d'actu aujourd'hui pour parler de justice restaurative. Christophe Alling, bienvenue.
Bonjour.
Alors, vous avez un peu plus de 60 ans, vous avez été pasteur dans la Fédération Baptiste en France, puis dans l'église méthodiste à Metz actuellement. Alors, qu'est-ce qui, à côté de votre ministère pastoral, a fait que vous êtes devenu aumônier de prison ?
Eh bien, c'est vrai que je n'avais pas eu de passé particulièrement difficile ou de délinquant ou je ne sais quoi d'autre, mais j'ai toujours été attiré par... les contacts avec les personnes un petit peu vulnérables et faibles et aussi marginalisées. Et c'est comme ça que je suis rentré dans, on pourrait dire, dans l'aumônerie des prisons pour aussi être à l'écoute des gens qui sont dans des grandes difficultés, même si elles sont emprisonnées à cause d'un délit ou d'un crime qu'elles ont commis.
Comment est-ce que ça se passe, l'aumônerie de prison en France pour un pasteur ? Vous devez avoir une formation particulière ?
Alors, les aumôniers protestants, en tout cas en France, sont reconnus et nommés par la Fédération protestante de France et sa commission justice et aumônerie des prisons. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas forcément besoin de formations particulières, si ce n'est des formations continues qu'on a régulièrement en tant qu'aumônier. Mais depuis maintenant quelques années, pas très longtemps, il y a une formation de 2 ans qui aboutit à un DU, diplôme universitaire, qui est donc donné à Strasbourg, à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, pour les aumôniers qui veulent nouvellement entrer dans le ministère d'aumôniers protestants des prisons. Une formation pas de 2 ans continuellement, mais de 2 ans avec des lectures à faire entre deux, quelques séminaires sur place. Voilà.
Alors, quand on est aumônier de prison protestant en France, on rencontre qui en prison ? Uniquement des protestants ?
Alors, en principe, on devrait rencontrer les gens de la religion pour laquelle on est nommé, donc protestant. Et en principe, c'est comme ça que ça marcherait. Mais finalement, on rencontre aussi d'autres personnes non protestantes qui ont demandé, parce qu'en principe, il faut que les personnes détenues demandent de voir un aumônier. Donc, par un papier, un bout de papier, ou bien par le bouche à oreille, où elles demandent à quelqu'un de dire, ben, écoute, est-ce que l'aumônier pourrait venir me voir ? Et c'est comme ça qu'on voit aussi d'autres personnes que uniquement des protestantes ou des évangéliques.
Vous avez quel type de population en face de vous quand vous allez en prison et que vous rencontrez les protestants ou les personnes intéressées qui sont incarcérées ?
Alors, il y a des gens qui ont eu un bac passé peut-être protestant ou évangélique ou en contact avec une personne d'une église protestante ou évangélique. Il y a pas mal de gens d'origine tzigane qui sont dans le mouvement de Vie et Lumière, et donc évangéliques, et qui ont en arrière-plan évangélique ou un oncle ou un papa ou un frère qui est même pasteur souvent. Et qui ensuite, eh bien, ont eu un faux pas, ou plusieurs fois des faux pas. Il y a aussi des gens d'origine africaine ou antillaise, qui ont aussi souvent en arrière-plan aussi protestants ou évangéliques, qui se retrouvent des fois en prison, même des fois à cause des problèmes de papier, ça peut arriver aussi. Ou bien il y a des gens ailleurs, ou d'autres d'origine. J'ai vu des gens d'origine roumaine, j'ai vu des gens aussi français de France. J'ai même vu à une époque aussi un Suisse, quand j'étais dans une prison près de la frontière suisse, qui était là aussi, qui était venu en France habiter, et puis qui avait fait le trafic de drogue, des choses comme ça.
Vous avez aussi rencontré des gens avec un arrière-plan musulman, en tout cas, c'est ce que vous m'avez glissé.
Ben oui, parfois ça arrive que des gens d'origine musulmane soient aussi ouverts à découvrir une autre religion. Des fois, ils sont juste curieux. Des fois, c'est parce qu'ils savent que l'aumônier protestant parlera facilement avec eux pour aller voir dans leur cellule aussi, parce que on peut les voir dans leur cellule. Mais et après, des fois, on discute aussi de religion entre nous.
Dans le cadre de ces 20 années de cheminement comme aumônier de prison un peu aux quatre coins de France, Christophe Alling, vous avez quelque part développé une sensibilité à la justice restaurative. Alors, en deux mots, la justice restaurative, qu'est-ce que c'est ?
La justice restaurative, alors on en parlera un peu plus tard tout à l'heure, je pense, c'est un concept qui permet de découvrir que quand quelqu'un a commis un tort, ce n'est pas d'abord une infraction à la loi, donc du point de vue pénal, mais d'abord, en premier lieu, même si c'est aussi une infraction pénale, c'est d'abord en premier lieu une blessure à des personnes. Et des personnes ont été impliquées et ont été victimes de ce que moi j'ai commis comme délit ou comme crime.
Concrètement, qu'est-ce que ça change tout le regard dans cette dynamique par rapport à la justice pénale à caractère rétributif que l'on connaît d'ordinaire?
Alors, la justice restaurative permet de voir les personnes en tant que telles comme des êtres humains qui ont subi des torts et qui ont souffert, et se rendre compte soi-même que finalement, eh bien, on n'a pas seulement enfreint une règle, le code pénal, le code de la route, etc., mais qu'on a donc blessé des personnes, et ça change le regard pour voir ce qu'on a fait et comment on peut réparer. Comment on peut réparer, éventuellement trouver un moyen de dialoguer même avec la personne qui a été victime.
Pratiquement, vous avez eu l'occasion à une ou deux reprises de mettre en œuvre ce type de justice, cette justice restaurative avec des prisonniers que vous serviez en prison.
Alors, directement, je n'ai pas participé à des programmes de justice restaurative, mais je peux vous raconter une expérience que j'ai vécue dans une prison de l'Est de la France où une personne incarcérée d'origine turque était en cellule avec une autre personne d'origine turque que je connaissais déjà et qui, elle, parlait français, mais l'autre, le détenu, parlait pas trop bien français. Et son collègue, quand j'étais le visiter dans la cellule, parce qu'on les voit en cellule, m'a dit, mais est-ce que vous pourriez pas, aumônier, s'il vous plaît, vous pourriez pas aider mon collègue A, il s'appelait A, le prénom, voilà, et à éventuellement faire quelque chose pour qu'il puisse s'amender, parce que lui, c'est un homme qui était en prison parce qu'il avait une fois trop bu dans un mariage ou une fête, et qu'ensuite il avait pris la voiture et avait pris l'autoroute à contresens. Oula. Et avait commis un accident malheureusement mortel. Une personne était décédée, une autre personne était maintenant handicapée à vie. Et cet homme, dans sa cellule, toutes les nuits apparemment, d'après son collègue, se levait, tournait en huit dans la cellule et se torturer les méninges. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que je peux faire pour réparer? Qu'est-ce que j'ai fait? Un homme, père de famille, de trois enfants.
Alors, dans une telle perspective, cette justice restaurative qui s'attache aux relations prioritairement entre les gens, qu'est-ce qu'elle a apporté? Quel type d'accompagnement vous avez pu proposer à cette personne?
Alors, je lui ai dit, écoute, peut-être que tu peux essayer de faire une lettre que tu pourras envoyer à la partie des victimes, donc aux parties civiles. Et donc, si tu ne peux pas être en contact directement avec eux, tu peux l'envoyer à ton avocat, qui ensuite l'enverra à l'avocat de la partie adverse et leur dire dans cette lettre que tu regrettes profondément ce que tu as fait, que tu ne voulais pas du tout, etc., et que vraiment que tu désires leur montrer ta compassion, etc.
Et c'est quelque chose qui a fonctionné, il m'a demandé de l'aider. En matière, et vous avez
Il m'a demandé de pouvoir l'aider à faire ça. Donc moi, en rentrant à la maison, j'ai essayé de formuler quelque chose sur un papier, avec même citation du psaume 51 dans la Bible.
Dites-nous le psaume 51, qu'est-ce qu'il raconte?
C'est un psaume qui raconte que David, qui a donc eu beaucoup de torts, maintenant, une fois qu'il a été confronté à son délit et même à son crime, David, le roi David, a ensuite formulé une demande de pardon à Dieu en disant « j'ai péché contre toi », etc. Et donc, il regrette vraiment profondément ce qu'il a fait. Et donc, j'ai pris des paroles de ce psaume dans la lettre que j'ai proposée à cet homme, A. Et ensuite, il a donc pu l'envoyer sans doute en rajoutant des choses peut-être de soi-même à son avocat pour envoyer à la famille. Et je ne sais pas ce qui s'est passé après.
Alors, Christophe Alling, avant de vous retrouver pour poursuivre notre réflexion autour de la justice restaurative, je vous propose de mettre le cap sur Folsom Prison Blues avec Johnny Cash. I hear the train coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno
just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. From this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
Vous écoutez Radio Air, un air d'actu. Aujourd'hui, nous sommes avec Christophe Halling, pasteur dans l'église méthodiste de Metz, également aumônier de prison depuis plus d'une vingtaine d'années. On a un peu esquissé, Christophe Halling, ce que la justice restaurative pouvait apporter. Est-ce que vous pourriez nous dire de manière un petit peu plus précise, lorsqu'on est dans une logique de conflit, ce que ce type de justice peut apporter à un prisonnier, à quelque part une personne qui a commis un délit?
Je pense que brièvement, peut-être que je peux quand même dire d'où ça vient, cette justice restaurative, peut-être, hein, parce qu'il y a en somme deux aspects historiques qui ont fait émerger cette justice. C'est d'abord une compréhension du principe de justice dans la Bible, en particulier l'Ancien Testament, par des personnes d'origine mennonite, de confession mennonite, qui ont beaucoup
réfléchi
à cette
question de justice. Donc, c'est une famille protestante que l'on connaît un peu en Suisse, du côté du Jura bernois et du Jura.
Voilà, par exemple, oui. Et c'était là au Canada en particulier, et aux États-Unis ensuite, qui ont bien étudié cette notion de justice dans la Bible, qui n'est pas seulement une justice pénale et rétributive, mais aussi une justice qui peut apporter ensuite le salut et même la guérison et la restauration, et donc une justice qui a aussi un côté, je dirais, de compassion. Et le mot justice, les mots employés en hébreu puis en grec pour la justice dans la Bible, eh bien, ont une notion beaucoup plus vaste que seulement la justice qui punit quelqu'un qui a commis quelque chose de mal. Donc, c'est pas seulement la justice jugement.
Et il y a un concept clé à avoir à l'esprit, c'est le concept de shalom, hein, que l'on connaît bien.
Voilà,
le concept
fait, voilà, oui.
de paix, mais compris de manière beaucoup plus, entre guillemets, sociale, beaucoup plus relationnelle que souvent on le comprend par rapport à une dynamique de paix personnelle.
Tout à fait. Et donc, c'est pour ça que si on comprend la justice comme cela, comme ce shalom biblique, eh bien, ça change le regard sur la justice, y compris celle que nous vivons maintenant, en Occident, par exemple. Et la deuxième source ou racine de
oui,
la justice
restaurative…
Oui, ça, c'est
important de le mettre en avant.
Oui, eh bien, c'est le principe des justices dans les sociétés premières, les Amérindiens, les Maoris en Nouvelle-Zélande, les Aborigènes en Australie, et le principe, le concept de Ubuntu en Afrique, par exemple, où on se réunit lorsqu'il y a eu un méfait qui a été commis, il y a eu un problème, il y a eu un conflit, il y a eu quelque chose de grave, peut-être même qui s'est passé. On réunit la personne lorsqu'on sait qui a fait cela, on réunit les personnes qui ont été victimes et on réunit toute la communauté autour, le village.
Ça, c'est une dimension importante. Hein. Ce n'est pas simplement une justice entre la victime et la personne qui a commis le délit et l'État, mais il y a vraiment aussi toute la communauté, le groupe familial et plus largement la société qui entoure ces deux personnes qui est prise en compte.
Voilà. Et c'est pour ça que, en découvrant ce type de justice, ces gens qui ont commencé la justice restaurative, en particulier Howard Zaire.
Oui, ça, c'est l'auteur d'un livre qui est traduit en français et qui s'appelle justement « La justice restaurative » et qui est paru aux éditions Labor et Fides.
Voilà, tout à fait, voilà, oui. Et bien donc, cet homme en particulier s'est dit « mais il faut qu'on voit la justice avec un autre regard, d'autres lentilles ». Il était photographe de métier d'origine. Il a dit « mais il ne faut pas qu'on le voit uniquement comme une infraction à des codes de loi ». Mais comme une blessure infligée à des personnes, et les personnes, ce n'est pas seulement les victimes directes, en quelque sorte, mais c'est aussi les personnes autour, justement, d'où la notion de communauté, parce que là, il y a les gens du village qui ont aussi souffert que tel méfait a été commis.
Il y a
les
gens, la famille immédiate de la victime
famille,
aussi.
Voilà, la famille immédiate de la victime a aussi souffert, parce qu'ensuite, eh bien, des fois même malheureusement, quand une personne décède, eh bien, c'est dramatique. La première victime, c'est la personne qui est décédée, mais les autres autour, bien sûr, eh bien, ils subissent de plein fouet toute cette absence. Et il y a même les personnes, lorsqu'une personne ensuite a commis un méfait et qu'elle est en prison, les personnes de sa famille à elle, personnes détenues, sont aussi quelque part victimes et sont aussi affectées par le méfait commis par le membre de la famille, parce qu'eux aussi souffrent. Moi, j'ai vu beaucoup en prison des personnes qui me disaient « mais moi, mes enfants, ils souffrent beaucoup, mon épouse souffre beaucoup du fait que moi, je suis incarcéré ».
Christophe Alling, en quoi est-ce que cette justice restaurative, on vous sent très passionné par ce sujet, en quoi est-ce que cette justice restaurative a renouvelé votre ministère d'aumônier en prison ?
Eh bien, ça me change le regard pour voir que la personne que l'on visite, par exemple, là, en prison, n'est pas qu'une personne qui a commis tel délit et qui doit être cataloguée dans cette chose-là. C'est un violeur, c'est un voleur, c'est un délinquant, c'est un criminel. Mais que c'est une personne qui a aussi une histoire, du vécu, une famille, des sentiments, et qui a aussi du bien quelque part en elle, mais qui a commis un méfait, qui a commis quelque chose qui a fait qu'ensuite elle est tombée. Et donc, permettre que cette personne puisse aussi être ensuite restaurée dans sa manière d'être et avancer. Et pour les victimes également, souvent lors d'un procès pénal, il y a les faits qui sont racontés, on explique un petit peu comment ça s'est passé. Ensuite, il y a des dialogues avec, bien sûr, la personne qui est accusée. Et ensuite, eh bien, souvent, elle ne dit pas grand-chose. Et ensuite, eh bien, il y a un jugement qui est prononcé et c'est tout. Mais la personne victime ne peut pas comprendre souvent pourquoi il m'a fait ça à moi. Et donc, si quelqu'un peut exprimer des regrets envers la personne qui a été victime en disant « mais écoute, je regrette, je n'aurais pas dû faire ça, j'étais dans un moment de… » Bon, souvent, ils le disent, un moment de découragement, de déprime ou de je ne sais pas quoi d'autre de ma vie qui a fait que j'ai basculé. La personne pourra voir que l'autre, ce n'est pas un simple, entre guillemets, simple criminel, mais c'est aussi une personne et qui a malheureusement dérapé. Et donc, elle pourra mieux être restaurée pour avancer.
Et là, c'est non seulement la personne qui a commis ce crime qui pourra avancer, mais c'est peut-être aussi, alors pour autant que ce soit possible, hein, puis là, j'imagine qu'il faut vraiment y aller comme sur une sorte de terre sainte, finalement, ça va peut-être permettre aussi aux victimes de changer, d'évoluer, de faire que leur regard sur la personne qui a commis le délit change.
Tout à fait, tout à fait. Et puis de connaître pleinement la vérité et pourquoi ça s'est passé. C'est pour ça que, par exemple, après des grands drames comme des génocides au Rwanda, eh bien, on a aussi, ou comme en Afrique du Sud avec l'apartheid, les commissions vérité et réconciliation. La vérité est importante. On sache ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Et donc, ça peut changer le regard pour ensuite avancer. En somme, la justice restaurative, elle regarde vers l'avenir. Alors que la justice pénale regarde vers le passé, il y a ça qui a été commis, il mérite tant comme peine. Et la justice restaurative dit, mais d'accord, il y a ça, il faut punir, mais ensuite, la personne peut encore avancer, il y a encore un avenir pour elle.
Mais est-ce que vous-même vous opposez cette justice pénale rétributive et la justice restaurative ?
Non, on ne l'oppose pas. Non, non, non. Elles ne sont pas opposées, elles sont complémentaires, on pourrait dire. La justice pénale doit passer, il y a des crimes qui ont été commis, ils doivent être punis, ça c'est clair et net, donc ce n'est pas une justice laxiste, la justice restaurative, et en général, ça se passe après le procès. Ça se passe dans le processus de justice restaurative entre des personnes victimes et des auteurs de crimes et délits et la communauté. Ça se passe en général une fois que la peine a été prononcée. Pas qu'on puisse penser qu'éventuellement la personne auteur de crimes ou délits eh bien, calcule son coût en disant « ouais, je vais être gentil, je vais ceci, cela » pour avoir moins de peine. Donc, c'est complémentaire.
Dans nos pays, hein, France, Suisse, la dynamique de justice restaurative n'est, semble-t-il, pas encore extraordinairement développée. Vous-même, vous êtes allé en Angleterre pour goûter d'un peu plus près à ce que cela pourrait apporter. Quels sont les souvenirs, les remarques que vous auriez à faire de cette expérience-là et qui aujourd'hui vous pousse à être un avocat de cette justice restaurative ?
Alors, c'est vrai que j'ai été à trois reprises, trois lundis de suite à Londres, au sud de Londres, dans une prison, pour voir un programme de justice restaurative qui se déroule sur 6 sessions d'une après-midi. J'en ai vu 3 sur les 6. Et ce sont des sessions avec une vingtaine de participants, donc des personnes détenues, des gens autour qui sont les facilitateurs donc de l'association Sycamore Tree, donc l'arbre sycomore. Ça vient de Zachée. Dans la Bible,
on entend bien les références bibliques qu'il y a là derrière, hein, Zachée voilà, et l'arbre sur lequel il était monté pour mieux voir Jésus.
Voilà, et surtout que Zachée, ensuite, une fois qu'il a rencontré Jésus, a été transformé. Il a dit, ben, ceux à qui j'ai volé, je vais rendre le quadruple, etc. Donc, montrer qu'on peut changer éventuellement après cette expérience. Et donc, c'est une expérience qui commence par l'histoire de Zachée. Alors, c'est vrai que c'est en Angleterre où on peut lire même la Bible dans une prison, je dirais, laïque. C'est difficile peut-être dans nos pays, mais là, on peut quand même trouver des autres manières de faire des choses. Et ensuite, les gens prennent conscience de ce qu'ils ont fait, les effets de vague, comme on les appelle. Ça veut dire que des gens autres, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, ont été aussi victimes collatérales de ce que cette personne a fait. Et ensuite, il y a une victime qui vient dans une des sessions carrément dire ce qu'elle a vécu. Et ça parle souvent aux détenus en disant « mais c'est vrai, je ne me rendais pas compte que, en ayant même volé, fait un cambriolage chez une personne, la personne était tellement traumatisée pendant des années à cause de ce qu'elle a vécu, la souffrance, la peur. » Et donc, ensuite, elle commence à réparer, à chercher comment réparer les choses. Et à la 6e session, on voit que des personnes détenues ont écrit des poèmes, ont fait un dessin, ont tâché de faire quelque chose qui répare et qui dit « je veux changer, je veux aller de l'avant ». Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que même du point de vue statistique, il paraît que les personnes qui ont pratiqué donc des programmes de justice restaurative récidivent moins.
Donc, il y aurait un impact pour la réinsertion de ces personnes.
Voilà.
Un impact
les personnes se rendent
très,
compte
très
et
favorable.
Elles vont… Voilà. Alors, ce n'est pas systématique, hein, ce n'est pas magique, mais ça peut aboutir à une réduction de la récidive. Et ça, c'est quand même formidable.
Christophe Alling, comment est-ce que vous voyez l'avenir de la justice restaurative en France ? Est-ce que c'est un type de justice auquel le système carcéral est sensible ? Il y a de l'avenir pour ce type de justice ?
Alors oui, depuis 2014, il y a une loi qui a été promulguée grâce à une commission dans laquelle j'ai participé de la Fédération protestante à l'origine, qui est devenue plus large, pour permettre que dans la loi, code de loi, eh bien, on puisse pratiquer des programmes de justice restaurative, maintenant la loi le permet. Donc, et ça existe déjà dans certains endroits, dans certaines juridictions, où on pratique ce type de justice. Le programme Sycomore est aussi commencé à venir en France. Il y a même les responsables nationaux de la justice qui sont assez favorables à cela. Et donc, ça commence à venir. Il y a des programmes aussi après la prison pour les délinquants, par exemple, routiers, qui puissent réaliser ce qu'ils ont fait, et ça évite aussi la récidive dans différents domaines. Et je crois que ça a de l'avenir, mais bien sûr, toujours en parallèle avec la justice pénale.
Alors, pour les personnes qui seraient intéressées par une réflexion autour de ce type de justice, hein, cette justice restaurative, il y a un livre, vous l'avez mentionné tout à l'heure, d'Howard Serre, « La justice restaurative », un livre qui est paru maintenant, il y a de ça quelques années, aux éditions Labor et Fides. Hein, c'est bien ça,
voilà, il y a maintenant 10 ans.
il y a une dizaine d'années. Et c'est un livre que vous recommandez.
Voilà, il y en a beaucoup d'autres hein, qui ont été écrits là-dessus. Le pionnier en France de la justice restaurative, on pourrait dire, c'est un criminologue, Robert Cariot,
qui a préfacé
le livre français de Howard Sayre. Un homme passionné par cela et donc qui a découvert tous les bienfaits de cette justice. Et lui, c'est pas forcément un homme qui a des origines chrétiennes, donc, mais qui a compris le bienfait de cela.
Christophe Alling, merci beaucoup d'être venu par Zoom dans Un air d'actu sur Radio Air. Je rappelle que vous êtes pasteur dans une église méthodiste à Metz et que vous êtes aussi aumônier de prison, passionné, on l'aura entendu, de justice restaurative. Merci à Erol d'avoir assuré la technique de cette émission. Si vous souhaitez réécouter ce que nous avons produit, n'hésitez pas à nous retrouver sur le site radio-air.ch ou alors à vous abonner à notre lettre de nouvelles. Bonne suite, Christophe Alling.
Oui, au revoir. Merci beaucoup de m'avoir invité.
Excellente suite de journée à chacune et à chacun. À bientôt.
Un air d'actu avec Serge Carrel.